Kaya FM et c'est kayafm.org en compagnie de Jules Réaume. Musique, art de la scène, art visuel, théâtre, bouffe, boisson et plus encore, soyez des nôtres tous les mercredis à 11h pour l'émission Culture.
Fan de rock progressif, Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découverte musicale, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Bonjour, ici Rémi Giguère et voici votre bulletin du jeudi 11 septembre 2025. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, espère sans trop d'illusions que l'arrivée de Sonia Bélanger comme ministre responsable amorcera un nécessaire changement de cap. Il interpelle le premier ministre afin que son gouvernement fasse enfin du droit au logement une priorité. Pour le FRAPRU, cependant, l'importante promotion accordée à France-Hélène Duranceau confirme que des politiques en habitation mises de l'avant sous son mandat sont conformes à la vision du gouvernement caquiste et de son chef. Moelle épinière et Motricité Québec invitent la population et les médias à un point de presse aujourd'hui dans le cadre de sa campagne pour le respect des stationnements réservés aux personnes en situation d'handicap. De 16h à 18h aujourd'hui, une patrouille citoyenne aura lieu dans le stationnement des Halles Fleur-de-Lys. L'objectif, sensibiliser automobilistes et commerçants à l'importance de laisser ces espaces accessibles à ceux qui en ont réellement besoin. Plusieurs personnes en fauteuil roulant ou utilisant un véhicule adapté seront présentes pour témoigner de leur réalité quotidienne. Francis Patnaud est le nouveau directeur général du théâtre Périscope. Originaire de Repentigny, M. Patnaud s'est d'abord engagé comme bénévole à l'Ara Musique avant d'y occuper des postes stratégiques. Titulaire d'un MBA, il a également travaillé aux communications numériques au Palais Montcalm, puis a occupé des fonctions de coordination et de direction chez Diffusion culturelle de Lévis, où il a consolidé son expertise en gestion, en programmation et en mobilisation d'équipes. La 28e édition du festival Envol et Macadam, le premier festival de musique alternative au Québec, débute aujourd'hui. L'événement rassemble des groupes d'envergure internationale, des figures marquantes de la scène québécoise et des talents émergents sur les scènes de l'Agora du Port de Québec, de l'Antibar et Spectacle, la Source de la Martinière, le Campus de Charlebourg, le Scanner et le Knockout. Ce soir, l'accès à l'Agora sera gratuit pour tout le monde. Mononcle Serge et Anonymous seront précédés par le mythique groupe métal Voivode. Le tout débute à 16h30. Également ce soir, l'Ensemble de musique improvisée de Québec propose un concert singulier au Centre communautaire Jacques-Cartier. Le seul orchestre de Québec dédié à l'exploration sonore et l'improvisation aura comme invité des musiciens et musiciennes des Violons du Roi, un orchestre réputé pour ses interprétations en musique classique. Le concert débute à 19h30. Une contribution volontaire est demandée. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Bonjour et bienvenue à l'émission Ici et ailleurs sur les ondes de CKIA FM 88,3. Je suis Suzanne Genet et je suis toujours un petit peu émue la première fois qu'on recommence une autre saison. Cette fois-ci, c'est notre 11e année qu'on débute aujourd'hui et qu'on débute en faisant un suivi sur une émission qu'on a présentée au printemps dernier. C'est un projet, le projet Sajama, qu'on vous a présenté. Et Marc Gaulin a vécu cette expédition-là au mois de mai et juin dernier. Et il était avec nous pour nous en parler. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour à vous et félicitations d'ailleurs pour votre 11e saison. Puis merci de me recevoir. Je suis content de vous revoir après ces quelques mois que l'aventure s'est déroulée.
Et oui, et c'est une 11e saison qui se poursuit avec la même équipe qu'on avait, avec Marie Quentin, avec Ginette Delaunière, avec Yves Simard, puis moi-même, puis notre metteur en onde, Marc-André Dubé. Mais je tiens à vous dire aussi que peut-être que je suis dans à ma 11e année, je suis dans mes derniers millages. probablement que ça va être ma dernière année et j'invite les auditeurs, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire partie de l'équipe, qui aiment les voyages, puis qui aimeraient animer, trouver des thématiques, c'est un plaisir, vraiment un plaisir de rencontrer des gens qui sont enthousiastes, qui sont heureux de parler de leur aventure. Fait que je vous invite, si vous avez de l'intérêt, à nous écrire à ici@ckiafm.org. Et c'est la même chose pour notre metteur en onde qui va terminer l'année avec nous. Et on se cherche à la fois un metteur en onde et des animateurs pour prendre la relève pour cette émission-là qui a fait ses preuves. Au cours des années, là, elle est rendue à sa 11e année, puis on a eu beaucoup de beaux invités et j'en ai un très, très bon aujourd'hui. Donc, on débute avec toi, Marc. Marc, si tu veux, j'aimerais ça que tu es parti le 11 mai puis tu es revenu le 3 juin.
Exact.
C'est une expédition en Bolivie.
Oui.
Donc, la thématique, c'est un sommet bolivien pour une cause humanitaire.
Exactement.
Exactement. J'aimerais ça qu'avant que tu nous parles de comment ça s'est passé, que tu nous parles plus, faire un petit rappel de comment tu voyais le projet quand tu es parti, juste avant que tu partes au printemps dernier.
En fait, le projet, c'était un défi personnel que je me suis lancé de passer la barre du 6000 mètres. Et j'ai joint à ça une collecte de fonds pour la cause d'Albatros Lévis. Alors, quand je suis venu à identifier quel sommet j'irais faire dans la Cordillère des Andes en Bolivie, ben j'ai choisi la plus haute montagne pour amasser, parce que symboliquement, on amassait 1 $ par mètre d'altitude. Alors, j'ai dit, je vais aller grimper le Sajama. C'est comme ça que ça se prononce là-bas. Et puis, donc, 6542 mètres là, d'altitude, c'était ça l'objectif. Pour ramasser des sous, 6542 $ pour l'organisme Albatros Lévis.
Et tu avais ce projet-là, mais il y avait des étapes avant d'arriver au volcan, le volcan Sajama, justement, si tu as bien fait de le dire. C'est vrai qu'en espagnol, c'est pas de la même façon. Nous, on le dit en français, Sajama, mais tu avais comme une suite d'étapes.
Bien, c'est-à-dire qu'à 6000 mètres d'altitude, il faut absolument respecter un processus d'acclimatation. On ne peut pas se lancer là, à 6000 mètres là, comme ça dans les premiers jours de notre arrivée là, sur place. Déjà, La Paz, la capitale de la Bolivie, c'est la plus haute capitale mondiale. Donc, déjà là, on est à 4000 mètres. Donc, les premiers jours, c'est certain que ça m'a permis
avoir.
De me poser un peu. Puis, on, on fait pas trop d'activités très intenses là, à cette altitude-là. Fait que c'est un processus. Après ça, la deuxième semaine, c'était dans l'objectif, l'itinéraire d'aller faire des 5000 mètres pour toujours contribuer à l'acclimatation du corps. Et dans la troisième et dernière semaine du voyage, là, de l'aventure, c'était pour aller vers l'objectif là, des 6000 mètres.
Et dans cet objectif-là, tu as parlé qu'il y avait une campagne de financement. Au printemps, vous étiez rendu autour de 12 000 $ je pense, de ramasser. Et maintenant, actuellement, vous êtes rendu, vous dépassez le 18 000 $ d'amasser.
Pas encore.
Non?
On s'y approche.
Ah,
on est rendu un petit peu
Internet.
Plus que 15.
Okay.
L'objectif est près de 19 000 parce que en cours de route, avant le départ, on avait atteint l'objectif initial de 6 542 $ Donc, on a rajouté deux autres sommets, la Cotango et le Parinacota, au projet pour augmenter l'objectif à tout près de 19 000. Mais à ce jour, 11 septembre, là, on est à plus de 15 000, c'est-à-dire d'amasser. La campagne se poursuit.
Elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le 11 septembre, c'est la date limite pour souscrire. Ceux qui ont envie de souscrire encore pour aider l'organisme Albatros Lévis.
Oui, aujourd'hui 11 septembre, mais on va prolonger le lien sur le site internet albatroslevis.com, toujours actif, même dans les mois qui vont suivre. Puis c'est aujourd'hui qu'on souligne le 35e anniversaire d'Albatros. Donc, on organise un cocktail dînatoire au Stade Onco à Lévis, Saint-Romuald, avec une prestation de Étienne Drapeau ce soir dès 5h30. Tout le monde sont les bienvenus. Ça va être sous la présidence de M. Jean Garneau du groupe Garneau Thanatologue.
Ben, j'ai envie, tu viens de mentionner Étienne Drapeau, et c'est l'artiste que tu as choisi pour boucler la première partie de l'émission. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce choix-là.
C'est une chanson qu'il a composée en hommage à sa mère qui avait l'Alzheimer. Donc, c'est une clientèle, c'est une maladie qu'on voit souvent au niveau des personnes qu'on accompagne chez Albatros Lévis. C'est une magnifique chanson. Il y a un paragraphe, entre autres, ça parle de « Je prendrai doucement ta main ». Tout bas, je te dirai, je suis là. Donc, la présence des accompagnateurs d'Albatros. Je sais que ton cœur, lui, comprendra. Donc, tout l'amour, la compassion que nos bénévoles dévoués offrent auprès des gens malades.
Et toi-même, je pense que tu as vécu quelqu'un de... Il y a quelqu'un dans ta famille qui...
Oui, ma tante est décédée 3 ans auparavant et elle m'a suivi jusqu'au sommet... en Bolivie. Elle avait l'Alzheimer. Donc, c'est le pourquoi j'ai choisi cette pièce.
Donc, on écoute « Je serai là » d'Étienne Drapeau.
Parce que s'envolent et puis s'exilent les souvenirs de tes 16 ans. Quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon que quelques visages en exil, dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra, quand les jours et le temps qui file auront enfin gagner la guerre, quand ton corps frêle et immobile te deviendra ta prison de verre. Quand tous les mots seront futiles, un seul regard sera nécessaire. Car je sais qu'à jamais elle brille, l'étincelle dans ton cœur de mer. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Je serai là.
Vous êtes à l'émission Ici et ailleurs sur le thème d'un sommet bolivien pour une cause humanitaire avec notre invité Marc Gaulin. Et là, Marc, à la suite de cette belle chanson qui représente très bien la cause pour laquelle tu défends, j'aimerais que tu nous parles vraiment comment c'est vécu. Cette expérience-là, tu as parlé tantôt que vous êtes arrivé à La Paz, puis à La Paz, bon, ben il y a une acclimatation à cause de l'altitude, mais bon, ça, c'est la première étape d'arriver à La Paz. Qu'est-ce qui se passe par après?
Je suis parti un petit peu fatigué parce que j'ai participé au congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs qui avait lieu ici à Québec les 8 et 9 mai. Dernier. Alors moi, mon vol partait le dimanche, le 11 mai, le dimanche qui était la même fin de semaine suivant ce congrès, à 6 heures du matin de Montréal. Et c'était long quand même, c'est 3 escales, plus de 20 heures d'avion, incluant les escales là, dans les différents aéroports.
Oui, ça c'est alors, pénible.
Je suis arrivé le 12, très tôt au matin, vers 5-6 heures du matin, en pleine nuit là, à La Paz. Donc, avec un peu de fatigue, mais mon rêve se réalisait. Ça faisait un an que je travaillais sur le projet. Donc, il y a une adrénaline qui est là. Tu trouves une énergie parce que là, t'es dans un nouveau pays. Tu t'en vas vers ton objectif. Donc, il y a toute une forme de fébrilité où tu vis ton aventure à laquelle tu travailles puis que tu penses depuis plus d'un an. Donc, la première journée, ben j'ai pris ça tranquille à La Paz. Je suis arrivé à El Alto, c'est l'aéroport le plus haut au monde, 4100 mètres d'altitude. Donc, j'ai pris un taxi pour aller vers l'hôtel, puis on descend à La Paz à 3600 mètres. Fait que la première journée, ben faut pas que tu ailles te coucher, même s'il n'y avait pas de décalage horaire. On est même sur le même fuseau horaire que le Québec, la Bolivie. Mais donc, je suis allé marcher un petit peu dans le quartier là, où ce qui était mon hôtel. Et les deux jours qui ont suivi, ben, j'ai fait du téléphérique. Il y a plus de 30 km de téléphérique là-bas. Qui monte à 4100 mètres, qui redescend plus bas. Fait que ça m'a permis aussi en même temps de commencer le processus d'acclimatation. Puis de voir la magnifique ville de La Paz aussi. C'est une merveilleuse capitale.
Sans trop brûler tes énergies.
Sans trop, c'est exactement. Donc, les trois premiers jours, ça a été ça, à La Paz. Visiter la cathédrale. Bon, me mettre comme dans l'ambiance, me poser, arriver sur place, me mettre dans... T'sais, la langue espagnole, la culture, bon. Et dès le 15 mai, donc le jeudi de la première semaine, je me suis rendu à Copacabana. C'était un de mes objectifs de me rendre voir le lac Titicaca. Suite à un précédent séjour en Bolivie, au Pérou, j'avais pas eu l'occasion d'aller voir le lac Titicaca. Donc là, je me suis rendu à Copacabana le 15 mai. Et ben, je suis allé à l'hôtel, comme j'avais parlé la dernière fois, El Rosario, qui porte le nom de mon père. Donc, j'ai passé une seule nuit, par contre, parce que c'était un peu dispendieux en argent américain. Et en même temps, j'ai souligné, lorsque je suis arrivé ce soir-là, l'anniversaire de décès de mon oncle, qui était décédé le 15 mai l'année auparavant. Alors, ça a été quand même émotif, tu sais, j'étais bien, j'étais dans un bon bon feeling malgré tout. Et ben le lendemain, j'ai commencé à marcher puis à monter une montagne là qui s'appelle le Cerro Santa Barbara. Donc tout près de 4000 mètres. J'ai fait aussi le Cerro Calvario, un petit peu plus de 4000. Donc autour là à Copacabana dans l'environnement. Par la suite, j'ai pris une petite traverse, un bateau pour me rendre à l'Isla del Sol, l'île du soleil. Alors, j'ai fait une autre randonnée sur cette île-là qui m'a permis de retourner en haut de 4000 mètres. Donc, ces journées-là ben, me permettaient de reprendre la marche avec un sac à dos, puis me remettre dans l'ambiance là, du pays, puis des sommets qui allaient suivre. Et après mon séjour à Copacabana, je suis remonté vers La Paz en m'arrêtant à Peñas. Donc, c'est un petit village près de la Cordillère Royale où ce que là, j'avais prévu faire deux sommets de 5000 mètres. On était dans la deuxième semaine. Donc, c'est là que j'ai fait le Pico Austria le 19 mai. Et ça n'a pas été facile. Parce que là, j'ai passé la barre de 5000 mètres, mais ça faisait quand même juste 7 jours que j'étais arrivé. Ben, j'ai quand même réussi, mais la soirée, quand je suis redescendu de la montagne, la soirée à l'hôtel, la nuit qui a suivi, le lendemain matin, j'étais malade, je filais vraiment pas. Mon corps, il y avait eu comme un choc aussi thermique. Je dormais pas bien la nuit.
Les nuits étaient froides,
oui,
je pense.
Oui, c'était froid. Il n'y avait pas de chauffage. On entendait des chiens aboyer. Le lendemain, là, le mardi, le 20, là, ça a été une journée de récupération, qu'on pourrait dire, là, de comprendre qu'est-ce qui était arrivé. Mais bon, j'étais satisfait quand même d'avoir monté à 5000 là, après ces jours. Et puis... le 21, le surlendemain, le mercredi, j'ai décidé d'aller vers mon autre sommet de 5000 mètres. Et là, on chaussait les crampons. Celui-là, le Huita Luxita, plus de 5000. Donc là, on embarquait sur une portion glaciaire. Donc, okay. Avec mon guide, ça m'a permis de m'habituer un peu avec la marche en crampons. Ça faisait quand même longtemps que... J'avais pas utilisé les crampons, le piolet. Bon, on s'est encordé une petite partie là, avant d'atteindre le sommet dans la grosse brume, là, mais on a quand même réussi ce sommet-là préparatoire. Donc là, j'étais en confiance un peu plus. T'sais, j'avais passé une première semaine à 4000, deuxième semaine, deux sommets de 5000, malgré un petit épisode où ce que j'ai été malade. Alors,
c'était progressif, là.
C'est ça. C'était ça qui était prévu. Je me dis, ben, je respecte mon itinéraire. Donc, tout va comme pour le mieux. Et donc, je suis revenu sur La Paz avec un Québécois que j'ai rencontré là-bas, à Peñas, Xavier Séguin. Et lui, le samedi, là, il partait faire le Huayna Potosí, qui est un sommet de 6000 mètres tout près de La Paz. Et j'ai réfléchi à me joindre à lui pour aller faire ce sommet-là, mais j'ai pris la décision de ne pas y aller parce que ce n'était pas prévu, planifié dans mon parcours. Puis je voulais garder des énergies pour les 6000 qui s'en venaient dans la semaine suivante. Fait que cette journée-là, moi, j'ai plutôt... je lui ai laissé le drapeau d'Albatros Lévy qui a grimpé au sommet du Wanapotosi avec le drapeau Albatros Lévy. Donc, je le remercie beaucoup pour ce geste-là. Et puis moi, je suis plutôt allé descendre en plus basse altitude. Donc, j'ai fait la Camino de la Muerte, c'est la route de la mort,
oh,
en vélo de montagne. Donc, j'ai parti ce samedi-là à 4700 mètres d'altitude en vélo de montagne avec le casse...
autre défi.
Ouais, exactement. Mais là, ça descendait. Donc, je me suis dit, ça va peut-être aider justement à mon acclimatation de redescendre à une plus basse altitude parce qu'on descendait jusqu'à 1100 mètres d'altitude avec de la verdure. Puis, donc, je me suis dit, je vais mieux respirer, je vais reprendre des énergies. Et puis, donc, ça a été vraiment une belle expérience, une belle journée là, que j'ai vécue là, sur la route de la mort. Et dès le lendemain, le dimanche, je partais pour le parc national du Sarama. Je suis arrivé là, je crois, autour du 25 mai, en soirée, que je suis arrivé au parc, là, avec vraiment un beau coucher de soleil. Quand j'ai fait mon entrée dans le parc sur le deux sommets de 6000, le Parinacota puis le Pomerape, c'était vraiment merveilleux. Mon guide est venu me recevoir là à l'entrée du parc. On est allé à l'hôtel. Le lendemain, le 26, il ventait trop sur la montagne. Là-bas, c'est l'altiplano. Donc, ces sommets-là, 6000 mètres, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres. Donc, le vent, il peut avoir une emprise quand même assez forte. Et le guide disait que ce lundi-là, là, il n'emmenait aucun groupe là, sur la montagne. Okay. Donc, c'est dans la nuit que je suis parti, dans la nuit du 26 au 27. On a quitté l'hôtel, il était 2 heures du matin. Après 2-3 heures de sommeil, c'est-à-dire. Puis un petit morceau de pain comme déjeuner. Là, fait que, on est parti comme ça avec 1h30 de route à faire pour se rendre le plus haut possible sur la montagne.
C'est sur la Cotango, là, cette
ouais,
fois-ci.
La Cotango, c'était le premier objectif de l'itinéraire. Donc, vers 3h45 du matin, là, on s'est mis à marcher. J'ai atteint le sommet le matin là, du 27 mai dernier. Ouais. Donc, ça a été une ascension que je dirais difficile parce que je me suis retrouvé seul sur la montagne en pleine nuit, une montagne que je ne connaissais pas. Et comme on dit, Albatros Lévy, personne ne devrait mourir seul, pas accompagné. Mais là, je ne l'étais pas accompagné, moi. J'étais toute la nuit seul. Ça a été une dure expérience, cette nuit-là.
De l'inquiétude, j'imagine.
Ben oui,
aussi.
Parce que il y a eu une mauvaise communication entre moi et mon guide. Donc, il y en avait un en avant avec des Brésiliens, mais ils ne m'ont pas attendu. Il y avait un rythme plus rapide que le mien. Et derrière, il y avait le guide en chef avec 5 Français, dont 3 ont abandonné durant la nuit. Alors, j'ai continué seul à la frontale, mais je voyais personne dans la totale noirceur, l'obscurité. Je voyais juste un peu en avant de moi, là, mais
comment
je connaissais pas...
Comment tu te guidais à ce moment-là, si tu n'avais pas un guide pour t'accompagner?
J'essayais de repérer où il y avait des trous de crampons sur la glace, dans la neige. Là. Mais c'est sûr, j'ai fait un petit peu de zigzag là, durant cette nuit-là. Là. Mais j'ai gardé le moral bon. Là. Puis à 7 heures du matin, j'ai arrêté parce que là, le lever du soleil, puis je voyais ce qui s'en venait avec la corniche, puis je me sentais pas apte à m'aventurer là plus haut seul. Fait que j'ai attendu 1 heure de temps au gros froid, gros vent, en espérant qu'il allait avoir quelqu'un qui allait venir me rejoindre. Puis effectivement, il y a 2 Français qui sont arrivés avec le guide. Fait que là, je me suis encordé à partir de ce moment-là avec eux, après 1 heure d'attente, puis on a poursuivi jusqu'au sommet. Fait que ça a été une nuit difficile, mais j'ai pas abandonné. J'ai chantais que j'avais l'énergie, j'avais le désir, j'avais toutes les gens qui ont contribué au projet, la cause derrière à laquelle je me suis rattaché, puis ça m'a poussé, puis ça m'a permis d'atteindre mon objectif.
Mais tu as fait ça, tu disais que tu étais parti le matin, puis tu avais à peine mangé. tout le long du parcours, quand tu étais seule, tu pouvais t'arrêter quand même puis manger un peu pour
ouais. J'avais emmené des bars là, énergétiques, puis un peu de trucs à grignoter, là, puis de l'eau. Donc, c'est sûr pour l'énergie, mais le mental a contribué beaucoup hein, à cette aventure-là. En montagne, oui, il y a le corps physique, mais il y a aussi le psychologique qui peut jouer beaucoup sur cette sur une montagne là, quand tu grimpes ouais. comme ça.
Et dis-moi, comme tu as fait cette montagne-là, tu as décidé finalement de ne plus faire les autres montagnes que tu voulais faire. Tu n'as pas fait le Sahama parce que ton énergie avait été toute sur la Cotango ouais. et que tu avais déjà atteint le 6000 mètres.
Oui, mon objectif était atteint. C'était ce que je souhaitais, passer 6000. J'arrivais sur la fin de mon voyage. Puis bon, il fallait que je prenne une journée de repos après ça, après cette aventure-là. Il y avait eu la confiance avec mon guide qui avait été ébranlé un peu aussi. Là. J'étais plus dans un bel état de dire je refonce vers une autre montagne avec le même guide.
Avec les mêmes risques.
Que j'avais pas vécu une belle expérience. Le Sahama, c'était 3 jours d'expédition avec 2 nuits en camping sur la montagne. Puis je voulais voir autre chose. Je voulais voir le Salar d'Uyuni aussi, le grand désert de sel dans le sud du pays. Donc, j'ai pris la décision que c'en était assez pour la portion montagne. J'en avais assez fait. J'avais atteint mon objectif. J'étais fier, satisfait, puis j'ai pas de rancune de pas avoir été sur les autres sommets. Puis les sommets vont rester là. Là. Si je veux y retourner un jour, ils n'auront pas bougé. Là.
Oui, tu as quand même une satisfaction d'avoir atteint ce que tu
Pleine
souhaitais.
Pleine satisfaction. Mon objectif était atteint. Je me suis retrouvé à 6054 mètres, là, si ma mémoire est bonne. Et puis, on a doublé l'objectif financier pour la collecte. Donc, tous les objectifs étaient réussis, étaient cochés. Donc, vraiment une grande fierté, un accomplissement. Et j'ai pris la sage décision de dire « c'est assez pour ce voyage-ci ». J'ai assez réalisé de choses que là, maintenant, et ça profite de mes derniers jours.
Et ça a été bien compris aussi par l'organisme, par Albatros Lévy, que tu es finalement, tu sois limité à la Cotango, puis que le Sahama...
Oui, en soins palliatifs, c'est un peu la même chose. Hein? C'est beaucoup d'imprévus. Il faut s'adapter, il faut respecter les limites des personnes. Il faut s'écouter, vivre le moment présent. Donc, c'est toutes des valeurs, des principes qui rejoignent l'organisme. Donc, pour eux, c'était pas un échec là, de pas avoir été faire le Parinacota ni le Sahama. Au contraire, c'était vraiment plus que les objectifs qu'on s'était fixés au départ.
Bien, sur cette atteinte-là de l'objectif que tu visais, je pense qu'on va aller à la pièce musicale, la deuxième pièce musicale, qui est vraiment, moi, ça a été une découverte. Ah. J'ai tellement aimé « You Raise Me Up » de Josh Groban.
Exactement.
Est-ce que tu as quelques oui. mots à dire là-dessus?
Ben en fait, c'est en anglais, la version en anglais, mais par contre, si vous vous arrêtez pour traduire les paroles, vous allez voir que ça dit « Viens t'asseoir un moment avec moi, j'attends ici dans le silence, tu m'élèves puisque je puisse me tenir debout sur les montagnes. » Donc encore là, il y a des paroles très significatives qui est en lien avec l'aventure que j'ai vécue et aussi Albatros Lévy, les personnes qu'on accompagne.
Oh, c'est merveilleux. On écoute cette belle pièce « You Raise Me Up » de Josh Groban.
Thank you.
my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up. Strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be.
Vous êtes à l'émission Ici et ailleurs sur le thème d'un sommet bolivien pour une cause humanitaire avec notre invité Marc Gaulin. Après avoir vécu une aventure comme ça, Marc, il y a des retours des fois, qu'il y a des lendemains qui sont un petit peu plus difficiles.
Oui, effectivement.
J'aimerais ça que tu nous racontes comment ça s'est passé à ton retour.
Bien... Le projet, j'ai été un an complète à y penser au quotidien, à faire des actions aussi à chaque jour, que ce soit pour la préparation du voyage en soi, ma préparation physique, psychologique, la collecte de fonds, la sollicitation des entreprises, la promotion du projet pour aller chercher du financement pour la cause... Donc,
c'est une adrénaline
qui a duré un an de temps, puis que j'en rêvais, puis que ça m'habitait au quotidien. Et ben, l'aventure elle-même aussi, des trois semaines que j'ai été parti, a été intense. Tu te retrouves dans un pays étranger, une langue étrangère. Tu t'es dans le concret, là, tu réalises ton rêve, t'as une liberté d'action, de découverte.
Une excitation aussi.
Une excitation, t'es dans des émotions, t'as comme pas trop de responsabilités non plus, t'as pas à planifier tes repas, à prendre la route, à te déplacer, à avoir des tâches professionnelles, remplir un... bon, etc. Donc, quand je reviens, il y a comme un... excusez-moi l'expression, là, c'est pas un clash, là, mais un... genre en français, c'est un...
Un choc,
là. Tu retombes comme dans la réalité assez vite. Moi, je suis revenu le 3 juin. Puis le 4 juin, je reprenais mon travail, là.
Mm-hmm.
Le lendemain. Fait que, tu sais, c'est...
un contraste.
Puis là, ben ton projet... est réalisé, donc il n'y en a plus. Le projet, il est mort dans le sens qu'il...
il est derrière toi.
Il est derrière, il est passé. Mais tu es encore tout imprégné de cette aventure-là. Fait que c'est pour ça que le retour, c'est comme une forme de deuil. Il faut que tu acceptes que c'est terminé, puis d'aller prendre les leçons que ça t'a apportées. Mais c'est une période qui a duré... tu sais, j'ai été 3 semaines intensifs sur place là-bas, dans Cordillère des Andes. Puis 3 semaines, un petit peu, ça a déprime. Mm-hmm. J'avais redescendu dans la vallée. Là. J'étais plus au sommet avec l'exaltation et autres. Là. J'étais vraiment...
un cru.
Une période plus creuse, à me remettre en question, à me dire... ben, à être triste, un peu... chagriné que ça soit terminé, tu sais. Et puis, bon, ben, je me suis rattaché à le travail que j'occupe en ce moment, donc répondre aux besoins des gens malades, d'être des accompagnés. Donc, je me suis rattaché quand même assez vite sur le quotidien de mes tâches, de mon emploi et de reprendre ma vie normale, si on veut, là, ou mes activités ici au Québec, là, le golf, puis d'aller marcher, puis avec un enrichissement de ma personne qui a grandi à travers ce projet-là là, que j'ai réalisé, que j'ai accompli. Donc, ça a été une période plus difficile, qui a duré 3 semaines, là, tu sais, pour me remettre un peu dans la réalité là, du quotidien.
Moi, il y a une phrase que j'ai lue dans la documentation que tu m'avais fournie et ça m'a accroché beaucoup. C'est une phrase de Paulo Coelho qui dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle.
» Effectivement, c'est l'écrivain qui a du livre « L'alchimiste ».
Oui.
Donc, c'est magnifique. Ça dit ce que ça a à dire. Hein.
Absolument.
Donc, je suis pas très routinier. Je n'aime pas justement l'aventure. J'aime quand ça change, quand...
Tu aimes l'aventure, mais tu n'aimes pas la routine.
La routine, c'est ça. Excusez, j'ai mal... j'aime pas la routine, donc j'aime l'aventure. Il faut que ça bouge, il faut que ça soit différent. Ça me challenge, ça me déstabilise, puis je vais chercher à ces moments-là les ressources qui sont en moi pour traverser ces moments-là où ce qu'on a à s'adapter ou à s'ajuster ou à changer nos attentes. Mais en même temps, c'est riche parce que ça nous fait vivre chaque moment intensément puis profondément. Donc, j'aime beaucoup cette citation-là, oui.
Il y a quelque chose, finalement, tu l'as dit aussi tantôt, le projet, il t'a stimulé, il t'a maintenu dans l'action parce que tu défendais une cause. Et ça, c'est pas ta première expédition, c'est pas ta première aventure que tu as fait. Et à chaque fois, c'était toujours associé à des causes que tu défends.
Ouais, ben j'ai fait d'autres voyages sans nécessairement associer une cause, mais lorsque j'associe une cause à une aventure comme ça, oui, c'est un défi supplémentaire d'amasser des sous, de parler de la cause derrière, Par contre, c'est doublement enrichissant aussi après coup, après avoir vécu des projets comme ça, puis d'avoir d'y avoir associé une cause. Puis en même temps, pour moi, c'est une motivation supplémentaire aussi. Donc, c'est comme un engagement. Tu sais, je prends un engagement envers un organisme, envers des gens qui font des dons. Donc, ça m'amène à me surpasser, à me dépasser. Parce que là, je suis pas seul dans mon aventure. J'ai plein de gens à qui j'en ai parlé, à qui j'ai associé. Fait que ça me donne un élément motivationnel derrière cette aventure-là, ces aventures-là. Puis j'en garde tellement un enrichissement. Je pense à mon première grande expédition que j'ai fait en 2003. Ça fait 22 ans. C'était l'atteinte du camp de base de l'Everest au Népal. Avec deux personnes en fauteuil roulant, puis j'en parle encore, ça m'habite encore, ça fait partie de mon cheminement, de mon parcours, de qui je suis. Fait que je prends plaisir de remettre ce genre d'aventure ou de projet-là de l'avant, parce que oui, ça me nourrit, comme vous le dites. Ça me challenge, mais ça me nourrit, puis ça me fait devenir une meilleure personne, un meilleur être humain, parce que je considère avoir le privilège de pouvoir vivre ces aventures-là, de pouvoir voyager, ce qui n'est pas donné à tous. Donc, j'en prends conscience, puis en même temps, ben, je me dis, je suis capable, je suis en mesure d'aider aussi.
Si on fait un bilan de toutes ces expériences-là, puis de la dernière expérience que tu viens de faire, qu'est-ce que ça t'apporte le plus sur le plan personnel pour toi?
Ben, une fierté, une grande satisfaction de oui, avoir atteint un objectif personnel, comme c'était le cas dans le cadre de la Côte Ango, que je voulais passer 6000 mètres, voir si j'étais capable en mesure d'eux. Et en même temps, une grande fierté d'avoir pu contribuer à une cause, d'avoir redonné au-dessus de 15 000 $ à un organisme communautaire comme Albatros Lévy pour l'accompagnement des gens qui, eux, reçoivent des diagnostics de maladies graves et terminales et qui puissent être accompagnés par des gens pour ne pas qu'ils meurent seuls. Donc, c'est une grande fierté, une satisfaction puis un accomplissement que j'ai derrière ces aventures-là que je mène.
Il y a une autre belle phrase que j'ai lue dans les documents et qui va un petit peu dans ce même sens, c'est « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. »
Effectivement, on ne connaît pas l'heure de notre mort. Demain, je ne sais pas où je serai. Et on est à risque au moment qu'on sort de chez soi, quand on prend la voiture, peu importe l'activité, tout. Il arrive tellement d'accidents, de différentes catastrophes, de gens qui reçoivent des diagnostics de toutes sortes. Donc, on n'est personne à l'abri de ça. Alors, si on a cette devise-là de profiter pleinement des moments, de chacune des journées, du moment présent qu'on est là ensemble...
De réaliser ses rêves.
De réaliser ses rêves, ses projets, ses désirs de contribuer aux autres, ben je pense que de cette façon-là, on apprend beaucoup, puis on profite pleinement de toutes les opportunités ou de tout ce que la vie a à nous mettre sur notre chemin.
Et tu as d'autres projets à venir, je pense. Il y en a d'autres que tu nourris.
Oui, c'est certain que c'était pas le dernier, la Bolivie, là, jusqu'à ce que je sois en santé, en bonne forme. Il y en aura d'autres, ne sont pas encore totalement définis. On veut peut-être organiser aussi une conférence avec Louis Rousseau, qui est un alpiniste qui est spécialiste du Karakoram au Pakistan et autres, là, qui a fait deux films. Une conférence bénéfice là, pour atteindre notre objectif pour Albatros Lévy cet automne. Peut-être une autre conférence avec Mylène Paquette, qui était la marraine d'honneur de mon projet, au printemps prochain. Il y aura d'autres voyages d'aventure, il y aura d'autres...
Il n'y a pas d'autres... des conférences pour, de toi que tu voudrais transmettre de tout ce que ça t'apporte, ce que tu nous... ce que tu nous communiques là, finalement, de ton cheminement à travers ces expériences-là. Est-ce que tu as le goût de transmettre ça?
Je ferme pas la porte à rien, mais bon, j'occupe un emploi actuellement de 3 jours/semaine pour Albatros Lévis comme coordonnateur des services. Puis on a toutes sortes d'activités, toutes sortes de projets. Fait que je ferme pas la porte à des opportunités ou des occasions qui pourraient se présenter, qui pourraient permettre de...
Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aurait le goût de se lancer dans des aventures comme ça? Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire pour les prévenir ou encourager?
De se lancer, de pas souvent... avec nos croyances limitatives, souvent, c'est nous-mêmes qui les mettons, nos barrières, hein? Il n'y en a pas de limite, tu sais, on se lance, on fonce, on prend notre courage à deux mains, puis on réalise ce qu'on a le souhait, d'écouter notre petite voix intérieure, si c'est ça qu'on a le goût de faire, ben on le fait, il y a toutes les... Tout va se coordonner, se synchroniser pour que ça l'arrive, mais il faut au moins faire le premier pas, il faut se mettre en action.
Se mettre en mouvement, oui.
Oui.
Et c'est ce que tu as fait... Même après le vide que tu as pu connaître dans les 3 semaines qui ont suivi...
On reprend la roue.
Ça relance sur autre chose par après.
Exactement.
Je te remercie infiniment, Marc, de ce temps-là que tu nous as consacré. Je rappelle l'activité du 35e anniversaire qui a lieu cet après-midi. Ça commence à quelle heure?
Ce soir, 5h30, au stade Onco. Cocktail dînatoire, c'est 25$ pour les membres et 50$ pour les non-membres. Il y a une consommation alcoolisée d'incluse avec des petites bouchées sous la présidence de M. Garneau, de Garneau Thanatologue. Donc, c'est encore le temps de prendre vos billets cet après-midi là, en ligne sur albatroslevy.com.
Il y a de la place.
Ou le soir même à la porte, là, mais c'est idéalement, ça serait en réservant, au moins en appelant au préalable.
Sinon, en fournissant à la collecte de fonds.
Oui, ça en ligne, c'est toujours possible de donner. Sur le site albatroslevy.com, il y a un onglet « Collecte de fonds Sahrama ». Puis vous entrez sur la plateforme Zephy là, pour faire votre don. Je vous en remercie à l'avance là, grandement.
Et on t'en remercie infiniment. J'en profite pour remercier Marc-André Dubé à la mise en onde. L'émission est en rediffusion mardi prochain à 16h. Et on vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une prochaine émission. Bonne semaine à tout le monde. Oh, la prochaine pièce musicale, j'ai oublié de l'annoncer. C'est une belle pièce musicale aussi. « Tu seras un homme, mon fils », interprété dans 2 langues par Imouvrini. C'est en italien probablement, ça, hein?
Oui.
En italien et par Grand Corps Malade, où on alterne entre les 2 langues. As-tu un petit
merveilleux,
ajout à faire?
Merveilleux poème qui rejoint beaucoup de valeurs ou de vertus que tous on devrait être à la recherche. Le courage, l'équilibre dans la vie, l'honnêteté, le devoir, vivre pleinement, la maîtrise de soi, etc., etc.
Et tes choix musicaux élèvent beaucoup. Et d'ailleurs, toi, tu t'en vas toujours dans des montagnes en escalade, donc ça va dans le même sens.
Ouais.
Tu t'élèves et les pièces musicales vont dans le même sens.
Exact.
Bonne semaine à tout le monde. On écoute donc « Tu seras un homme, mon fils ».
La dernière fois où j'ai rendu visite à Vincent, par cœur, il m'a dit ce merveilleux texte que vous connaissez sans doute. Un texte de Rudyard Kipling, en rajoutant « Mon rêve serait que tous les enfants du monde apprennent ce texte par cœur, qu'il entre dans toutes les maisons du monde. »
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie,
et sans chaparula mette di a costruire,
et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties.
Senza gesto, senza un sospiro.
Sans un geste et sans un soupir.
Se tu puoi essere amante senza un pazzi d'amore.
Si tu peux être amant sans être fou d'amour.
Se tu puoi essere forza e sempre tenerezza.
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre.
Sente di odiato senza portarne odio.
Et te sentant haï sans haïr à ton tour.
E pur lutta e difenditi.
Pourtant lutter et te défendre.
Se tu puoi supportare disante do barule.
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles.
Travestite dai gorci per cum piace ai bazzi.
Travesti par des gueux pour exciter des sots.
Sente dante ugie le bocche sceme.
Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle.
Senza du bugiarda una barulla sola.
Sans mentir toi-même d'un seul mot.
Se tu puoi verma degno e popolare.
Si tu peux rester digne en étant populaire.
Se tu puoi verma populo e consigliai re.
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois.
Se tu puoi denegare i d'amici come fratelli.
Si tu peux aimer tous tes amis en frères.
Senza che nessuno sia tutto per te.
Sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi.
Se tu sai riflette, apre l'occhi e conosce.
Si tu sais méditer, observer et connaître.
Senza mai diventa niscente o distruttore.
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur.
Sunia, senza lasciar sogno esse o do maestro.
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître.
Pensa, senza aver mai pensatore.
Penser, sans n'être qu'un penseur.
Se tu puoi essere forte senza un palmo in rabbia.
Si tu peux être dur sans jamais être en rage.
Se tu sai essere buono, se tu sai essere sabio.
Si tu sais être bon, si tu sais être sage.
Senza pausa bientone.
Sans être moral ni pédant.
Se tu puoi rencontrare trionfo dopo disfatta.
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite.
Riceve si bugiardi con gli stessi fronte.
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front.
Se tu puoi mantenere cervello e coraggio.
Si tu peux conserver ton courage et ta tête.
Quando tutti gli altri perderanno.
Quand tous les autres les perdront.
Allora i re, i signori. A fortuna e a vittoria.
Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire.
Saranno per sempre i tuoi schiavi sottomessi.
Seront à tout jamais tes esclaves soumis.
Et meglio che i re, meglio che la gloria.
Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire.
Sarai un uomo, figliolo.
Tu seras un homme, mon fils.
Sarai un uomo, figliolo.
Tu seras un homme.
Qui non chiamo nous.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Culture, c'est votre rendez-vous culturel épicurien tous les mercredis à 11h sur les ondes de CKIA FM et CKIAFM.org en compagnie de Julie Réaume. Musique, art de la scène, art visuel, théâtre, bouffe, boisson et plus encore. Soyez des nôtres tous les mercredis à 11h pour l'émission Culture.
Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, bo boy! Spraynet et Spandex, les mardis de 10h à midi sur les ondes de CKIA 88.3.
FM.
CKIA, le journal.
Bonjour, ici Rémi Giguère et voici votre bulletin du jeudi 11 septembre 2025. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, espère sans trop d'illusions que l'arrivée de Sonia Bélanger comme ministre responsable amorcera un nécessaire changement de cap. Il interpelle le premier ministre afin que son gouvernement fasse enfin du droit au logement une priorité. Pour le FRAPRU, cependant, l'importante promotion accordée à France-Hélène Duranceau confirme que des politiques en habitation mises de l'avant sous son mandat sont conformes à la vision du gouvernement caquiste et de son chef. Moelle épinière et Motricité Québec invitent la population et les médias à un point de presse aujourd'hui dans le cadre de sa campagne pour le respect des stationnements réservés aux personnes en situation d'handicap. De 16h à 18h aujourd'hui, une patrouille citoyenne aura lieu dans le stationnement des Halles Fleur-de-Lys. L'objectif, sensibiliser automobilistes et commerçants à l'importance de laisser ces espaces accessibles à ceux qui en ont